RCF.
L'Hebdo Région, le magazine d'information proposé par les rédactions de vos radios chrétiennes en Pays de la Loire.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'Hebdo Région. Avec les grosses chaleurs, les pollens sont sortis depuis plusieurs jours et ces pollens sont parfois très allergisants. À Laval, un pollinarium permet d'observer la situation au jour le jour. Samuel Pécaud de Fidélité Mayenne nous le présentera. Les 24 heures du Mans, c'est le grand rendez-vous sportif de ce week-end. Et cette année, la célèbre course d'endurance aura une saveur particulière avec des vaillantes rébellions au départ. Des voitures inspirées de la célèbre bande dessinée Michel Vaillant. Aubry Métro nous fera rencontrer entre autres le dessinateur du dernier tome de la BD. La pause spirituelle sera aussi sur les bords du circuit. À chaque édition des 24 heures, l'évêque du Mans célèbre la messe pendant que les voitures roulent sur la piste juste à côté. L'initiative de la semaine nous entraîne en Vendée avec Fanny Brevet. La coopérative Cavac lance un site web pour mettre en relation les agriculteurs engagés dans la vente directe et les consommateurs adeptes du manger local. Et puis le festival d'Anjou, deuxième plus gros rendez-vous de théâtre après Avignon, a démarré lundi dernier. Bastien Lallier de RCF Anjou a rencontré pour nous le directeur artistique du festival. Voilà donc pour le sommaire de cette émission, c'est l'Hebdo Région qui vous est présenté par Foulco Mahony de RCF Vendée en collaboration avec les radios chrétiennes des Pays de la Loire.
L'Hebdo Région, l'actu de la semaine.
Et on commence tout de suite cette hebdo-région avec l'actualité donc de la semaine, l'arrivée des pollens avec de belles températures. Forcément, on retrouve tout de suite Samuel Pécaud. Bonjour.
Bonjour Foulque, bonjour à tous.
Si vous avez le nez bouché, les yeux qui coulent et qui vous démangent, eh bien vous êtes peut-être allergique au pollen. Avec les grosses chaleurs du moment, les graminées produisent beaucoup de pollen très allergisant. Et justement, à Laval, un pollinarium permet d'observer au jour le jour la pollinisation afin de faciliter la vie de nombreuses personnes allergiques.
Oui, Foulque, ça fait déjà presque 5 ans qu'il fonctionne et Laval était la deuxième ville de France à se doter de ce type d'équipement. Le concept avait été initié à Nantes il y a 15 ans, mais le climat nantais est tout de même plus doux que le climat mayennais et les données collectées à Nantes n'étaient pas exploitables sur toute la région des Pays de la Loire. Donc à Laval, le pollinarium est installé dans le jardin de la Périne, en plein centre-ville. Et à première vue, c'est un jardin comme un autre, comme nous l'explique Bruno Sablé, le responsable des espaces verts de la ville.
Oui, alors ce jardin est composé d'une vingtaine d'espèces, 8 ligneuses et 12 herbacées, qui sont issues de notre campagne mayennaise autour de Laval, à 15-20 km en périphérie de Laval. Alors nous avons, en termes d'arbres, nous avons le noisetier, le bouleau, le saule, le frêne, le cyprès. Et puis en herbacées, on a le plantain et les graminées, les nombreuses graminées qui donnent beaucoup de pollen.
Beaucoup de pollen qui entraîne en ce moment de nombreux rhumes des foins, des pollens qui sont scrutés au quotidien par les jardiniers de la ville.
Oui, alors tous les jours, nous venons, alors ça dure un petit laps de temps, hein, un petit quart d'heure, tous les jours, on vient voir la réaction de la plante si elle commence à émettre du pollen ou si simplement elle arrête. Alors, ces données sont transmises à RPI de Loire qui émettent des alertes.
Alors ça, c'est pour comprendre, Samuel, mais comment sont diffusées ces alertes pour que les personnes sensibles soient informées au plus vite ?
Eh bien, tout simplement par mail, en direct auprès de tous ceux qui sont inscrits sur le site alertepollen.org. Et rien qu'en Mayenne, près de 1000 personnes sont abonnées pour recevoir les données sur les pics de pollen. Parmi elles, justement, Bruno Sablé, le responsable des espaces verts, qui suit ces mails de très près parce qu'il est lui-même sujet au rhume des foins.
Je suis abonné à cette lettre, ce qui me permet de recevoir une information et de commencer mon traitement rapidement sans avoir les symptômes et les inconvénients de ces allergies. Nous sommes informés 10-15 jours avant le pic d'allergie, car ce jardin, il est précoce en termes d'émissions, car il est à l'abri des vents et exposé plein sud. Alors, le rayon est de 50 km d'action. Alors, ça peut être intéressant pour quelqu'un qui habite Château-Gontier de s'inscrire à Angers et à Laval.
Puisqu'aujourd'hui, il y a 4 pollinariums sentinelles en Pays de la Loire. À Laval, on vient de l'entendre, mais aussi à Angers, Nantes et même Saint-Nazaire. Donc si vous êtes sujet au rhume des foins, n'hésitez pas à consulter un allergologue et donc aussi à vous inscrire sur alertepollen.org pour recevoir donc les emails de prévention d'air Pays de la Loire.
Samuel Pécaud de Fidélité Mayenne, merci beaucoup Samuel pour ce sujet santé. À la semaine prochaine.
Bon week-end et à la semaine prochaine.
Dans le reste de l'actualité régionale, l'Union fait la force. Les groupements hospitaliers du Maine-et-Loire, de la Mayenne et de la Sarthe ont décidé de s'unir. Ensemble, les 3 départements se sont accordés sur la mise en place prochaine d'une délégation à la recherche clinique et l'innovation. Délégation qui sera coordonnée par le CHU d'Angers. Cécile Courrèges n'est plus directrice de l'Agence régionale de santé. Elle a été nommée mercredi en Conseil des ministres à la Direction générale de l'offre de soins. Christophe Duvaux, directeur général adjoint de l'ARS, va assurer l'intérim. Et puis le bac 2017 a démarré cette semaine. Dans l'Académie de Nantes, 38 053 candidats ont planché pendant de nombreuses heures dans les différentes matières et poursuivront jusqu'à jeudi prochain. Pour rappel, le taux de réussite l'an dernier était de 93,6% dans la région. Tout de suite, on poursuit dans l'Hebdo-Région, place à la rencontre de la semaine.
L'Hebdo-Région, rencontre avec...
Et la rencontre de la semaine nous emmène en Sarthe où nous attend Aubry Métro. Bonjour.
Bonjour Foulque.
Nous allons bien évidemment parler des 24 heures du Mans. C'est l'autre grosse actualité de la semaine, la course automobile qui va attirer ce week-end plus de 250 000 personnes. Et cette 85e édition a une saveur particulière car sur la piste, il y aura des vaillantes rébellions, des bolides sortis tout droit d'une bande dessinée.
Et oui, ce sont les célèbres voitures de Michel Vaillant, le héros de bande dessinée revient au Mans, dans un nouveau livre, mais aussi dans la vraie vie, car pour souligner l'apparition de la nouvelle BD qui se passe pendant les 24 heures de cette année, un partenariat a été loué avec une véritable écurie, Rébellion. Philippe Graton est l'auteur de ce nouveau tome.
C'est pas une année comme les autres, c'est le 60e anniversaire de la création de Michel Vaillant. Pour preuve, cette édition des 24 heures du Mans, où bien placés sur la grille de départ, seront deux vaillantes rébellions, pilotées par Bruno Senna, Nicolas Prost, Nelson Piquet Jr. et les trois autres pilotes tout aussi rapides. Donc c'est une très très belle aventure qui couronne un peu ces passages fréquents de la fiction à la réalité.
Michel Vaillant qui a fait rêver plus d'un enfant, je l'avoue, Aubry, moi aussi, le premier.
Ouais, il a aussi fait rêver des pilotes, Alain Prost était fan, c'est d'ailleurs grâce au héros que son fils Nicolas a pris conscience de l'ampleur de la carrière de son papa. Un jour, il l'a vu dans la bande dessinée et aujourd'hui, c'est à lui de porter les couleurs de la Vaillante dans la vie et sur les planches.
C'est une fierté aussi bien de courir sous la couleur Vaillante que d'être dans l'album et c'est vraiment sympa et c'est un beau projet. Pour moi, Vaillante, c'est une vraie marque du sport automobile comme Matra ou Alpine, donc c'est vraiment super de ramener Vaillante aux 24 heures du Mans.
Et cela fait 60 ans que Le Mans fascine les auteurs. Samuel Chevaux est spécialiste de BD, il a une librairie dans le centre-ville.
On ne cesse de le répéter, c'est une course mythique. Concernant Michel Vaillant, le papa Jean Graton était venu tout petit. C'est ce qui a déclenché chez lui l'envie de faire de la bande dessinée et de créer un héros dont la vie se déroulerait durant notamment les courses automobiles et encore plus spécifiquement aux 24 heures du Mans. Il y a eu toute la magie des années 50, 60. Ça fait des années que ça dure, même si évidemment de temps en temps les ventes ne sont plus tout à fait les mêmes que dans les années 50, 60. Mais dès que Michel Vaillant revient au Mans, boum, ça redécolle. Il y a vraiment quelque chose. En plus, ici, on est en plein vivier. Hein. Et c'est certain que de vivre un moment, quand on est amateur de bande dessinée, au cœur même de l'événement, c'est vraiment grandiose.
Et la magie semble encore opérer, en tout cas, chez les fans d'automobiles que vous avez rencontrés.
Ah oui, c'est le cas de Pierre-Louis. Ce Canet a le nouveau tome sous le bras. Il vient au Mans depuis 1974, en grande partie grâce ou à cause de Michel Vaillant.
On m'en offrait quand j'étais enfant, puis plus tard je les acquérais moi-même. Je viens aux 24 heures depuis que j'ai 9 ans, hein, vous voyez, donc c'est une longue histoire. C'est un personnage dont je suis fan en quelque sorte parce que je lis les albums depuis l'enfance. Et puis quand c'est Le Mans, il y a un petit plus quand même. La course dans tout ce qu'elle a de réaliste et en même temps effectivement le mélange d'aventures qui sont ancrées dans une réalité mais qui parfois aussi en sortent. Hein. Je pense par exemple à un livre qui s'appelle Le pilote sans visage où il y a un pilote qui court dont on ne voit pas le visage. Ce qui ne serait pas possible parce que on les voit aujourd'hui, ils viennent présenter leur licence, présenter leur permis de conduire.
Et une édition limitée de Rébellion, le dernier tome, a été édité spécialement pour les fans Manceau. Il y a des planches inédites et une couverture particulière. Mais je suis désolée, Foulque, les 1200 exemplaires ont déjà tous été vendus.
Eh bien, c'est pas grave, je me procurerai quand même, non pas l'édition limitée, mais le dernier tome prochainement. Ne bougez pas, Aubry, on vous retrouve tout de suite pour la pause spirituelle. Et avec vous, Aubry, on va rester justement dans l'univers des 24 heures du Mans, car en plus des passionnés d'automobile, sur les bords du circuit dimanche, il y aura aussi l'évêque du Mans.
Et oui, comme chaque année, Monseigneur Le Sceau va célébrer la messe à 10h30 sur le bord du circuit. L'Eucharistie aura lieu devant la chapelle du Virage qui porte le même nom. Alors dans l'assistance, on aura des scouts, ils sont bénévoles sur le circuit depuis plusieurs années, mais aussi des passionnés d'automobile qui sont venus du monde entier. Il était donc inconcevable pour notre évêque de rater cet événement.
Bon, la première raison, c'est parce que c'est un dimanche et que sur le circuit, vous avez un certain nombre de chrétiens. Je pense aux Français, mais je pense aux Sartois, mais je pense aussi à tous les autres de différentes nationalités. Et donc, de leur permettre de pouvoir participer à l'Eucharistie le dimanche est tout à fait normal. Et puis, d'autre part, je me souviendrai toujours, la première fois, première année où j'ai célébré la messe sur le circuit en arrivant, je me disais à quoi je vais tomber. C'était essentiellement des scouts. Et là, en sortant du, en rentrant, un des pères de famille, il m'a pas vu, il parlait à son fils et lui dit, tu vois, on peut aimer les courses automobiles et être chrétien. Et je me suis dit, rien que pour ça, il faut être là.
Alors racontez-nous, Aubry, comment se déroule cette messe?
Alors je vous avoue, la première fois, c'est vrai, ça paraît un peu improbable. Les paroles de Monseigneur Le Sceau sont souvent couvertes par ce genre de bruit. Et dans l'assistance, on est bien d'accord que ce ne sont pas les mêmes personnes qu'à la cathédrale Saint-Julien. Vous avez des Anglais, quelque peu éméchés, des passionnés qui sont allongés sur leur hamac, gardant un œil sur la piste et un œil sur la messe. Et puis il y a les scouts, ils sont plusieurs dizaines. C'est d'ailleurs eux qui animent cette messe, car il existe un lien très fort entre eux et l'ACO, l'organisateur des 24 heures.
Depuis les débuts, il y a la présence des scouts, entre autres liés à ce dramatique accident il y a quelques années. Et les premiers à être intervenus pour venir en aide aux gens aux rescapés étaient des scouts. Et du coup, il y a une tradition qui est établie dans le cadre des 24 heures du Mans, où il y a toujours un camp scout sur le site. Cette présence chrétienne à travers eux marque l'histoire des 24 heures du Mans. Vous savez, je crois que les 24 heures ont quelque chose de très particulier. Il y a quelque chose de à la fois mondial avec tous les enjeux et les questions. Alors on est pour, on est contre, mais il y a quelque chose aussi de très socialisant, de très local, où les gens ici sont attachés à cet événement.
Donc si je comprends bien, Aubry, il y a une vraie chapelle à quelques mètres seulement de la piste.
Oui, les murs sont en pierre et en latte de bois, le toit lui est en tôle surplombé d'une croix. Alors elle est très petite, hein, il y a juste la place pour un autel, mais beaucoup de chrétiens viennent y déposer la photo d'un pilote qu'ils admiraient et qui est mort en course, ou bien quelques mots écrits sur une feuille pour rendre hommage à un proche qui était passionné des 24 heures, et toutes ces intentions de prière touchent énormément Monseigneur Le Sceau.
En côtoyant un peu entre le monde des pilotes, il y a des valeurs d'exigence, de dépassement de soi, de droiture, qui sont véhiculées tout de même, et qui ne sont pas étrangères à ce que nous voulons vivre. Vous savez bien que beaucoup de pilotes ont parfois perdu la vie, alors que ce soit au Mans ou ailleurs, et les gens dans ce monde sont attachés à la mémoire de ceux qui sont partis, disparu. Et l'un des lieux où s'exprime cette mémoire, c'est aussi quand nous prions pour ces gens dans le cadre de l'Eucharistie.
Alors pour vivre ce moment particulier, si vous êtes sur le circuit des 24 heures, rendez-vous à 10h30 pour la messe au niveau du virage de la chapelle.
Ah ben merci beaucoup Aubry pour ce dossier spécial 24 heures du Mans. Bon week-end sur le circuit, vous y serez bien entendu.
Ouais, j'y serai avec une bouteille d'eau parce qu'il va faire très chaud, beaucoup de crème solaire pour pas finir comme un écrevisse, et puis je vous promets de partager plein de photos sur les réseaux sociaux.
Eh ben merci beaucoup, profitez-en bien et donc faites attention au coup de soleil. Allez, à la semaine prochaine Aubry.
À la semaine prochaine.
Et pour clore ce dossier 24 heures du Mans, sachez que pour garantir la sécurité, tous les moyens ont été renforcés, 20% d'hommes supplémentaires, en tout plus de 1000 policiers et gendarmes seront mobilisés. Pour l'occasion, les renforts humains sont arrivés de tout le Grand Ouest et de la région parisienne. Il y a aussi des renforts techniques avec deux dispositifs de surveillance vidéo ultra pointus. Allez, on poursuit cette Hebdo Région avec l'initiative de la semaine du côté de la Vendée.
L'Hebdo Région, initiative.
Et pour l'initiative, on retrouve Fanny Brevet. Bonjour Fanny.
Bonjour Foulk, bonjour à tous.
Aujourd'hui, www.produitici.fr, c'est le nom du site internet lancé hier par la coopérative CAVAC en Vendée.
Oui, et l'enjeu, eh bien, c'est de mettre en relation les agriculteurs engagés dans la vente directe et les consommateurs adeptes du manger local. L'idée a germé il y a un peu plus d'un an dans la tête des adhérents de Bovinéo, le groupement de producteurs de viande bovine. Et le site a été ouvert aux autres activités de la coopérative. Sur Produit Ici, les consommateurs peuvent donc trouver de la viande bovine, mais aussi du porc, de l'agneau, du lapin, des légumes ou encore du vin et du miel. Mode d'emploi avec Christophe Ménoret, responsable du développement des circuits courts à la CAVAC.
C'est tout simple, hein. Donc il y a trois possibilités. Soit vous tapez votre code postal sur le site Et s'affichent autour de chez vous les producteurs qui font de la vente directe dans un rayon de 20 km, 20-30 km. Et autrement, vous cherchez un produit ou une espèce particulière de la volaille, du porc ou autre, vous sélectionnez l'espèce et là vous avez les éleveurs qui produisent et qui font de la vente directe sur cette espèce-là. L'autre et dernière solution aussi, vous avez besoin de viande assez rapidement pour X raisons. Vous pouvez trouver les dates des prochaines ventes de tel ou tel producteur de la production de la viande que vous cherchez.
Et donc le consommateur, il peut soit ensuite faire une prise de contact ou une réservation.
Voilà, donc on a voulu mettre en place deux systèmes. Un contact simple là par téléphone ou par mail, comme quoi il demande de pouvoir réserver un colis ou un produit chez un producteur qui fait de la vente directe. Mais autrement, il y a possibilité, parce qu'on voulait toucher aussi, dans ce site-là, je dirais peut-être des nouveaux consommateurs plus jeunes qui ont plus l'habitude de faire de la réservation ou de la commande en ligne. Donc on propose de la réservation en ligne de viande sur ce site-là. Alors, ce n'est pas une commande, on ne va pas jusqu'au mode de paiement. On s'arrête à la partie réservation où là, donc l'éleveur reçoit un mail, lui, comme quoi il y a monsieur Durand de tel endroit à réserver un colis de viande pour telle date.
Éleveur bovin au Poiré-sur-Vie, Martine et Christian Breteau pratiquent la vente directe depuis 18 ans. Ce nouveau portail internet va leur permettre de développer cette activité. Écoutez le témoignage de Christian Breteau.
La vente directe, ça fait 18 ans pour nous que ça tourne. Et bon, on est tout à fait satisfait, ne serait-ce que par la reconnaissance aussi du consommateur par rapport aux retombées, justement, que l'on n'a pas forcément dans d'autres circuits. On ne sait pas si notre viande est bonne ou pas bonne ailleurs, tandis qu'ici, il n'y a pas de souci. Les consommateurs, ils les jugent et s'il n'est pas content, il ira ailleurs. Donc on n'a pas le droit de se tromper, on essaye.
Et aujourd'hui, vous allez plus loin en intégrant ce site?
Alors, en intégrant ce site, oui, parce que je crois qu'on a besoin de se faire connaître. Et nous, en tant qu'éleveurs, on n'est d'une part pas formés pour faire de la communication. On ne sait pas trop bien la faire. Et ben là, on a trouvé un outil qui nous permettait de le faire, quoi. Déjà, Internet nous avait bien aidés par le biais, justement, de la communication avec notre clientèle. Et là, comme ça aura une communication bien plus large.
Vous avez assez de bêtes pour développer encore plus cette vente directe?
Pour l'instant, on a à peu près 20% du potentiel que l'on a qui va dans ce circuit-là. Donc beaucoup d'animaux partent en circuit label et ces animaux-là peuvent être disponibles du jour au lendemain pour la vente directe.
Et à ce jour, 25 producteurs sont déjà référencés sur le site, mais ils seront 150 à 200 d'ici la fin de l'année sur les départements des Pays de la Loire et les Deux-Sèvres. Mais l'ambition est d'élargir l'offre produit ici en nouant des partenariats avec d'autres coopératives agricoles.
Voilà, une initiative pertinente dans l'actualité de la crise agricole. Merci beaucoup Fanny, à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Et puis pour rester dans le domaine des initiatives et de la Vendée, c'est une première dans la région des Pays de la Loire. Un parcours multi-handicap vient d'être inauguré en forêt domaniale du Pays de Mont, situé aux portes de Biotopia. Équipement dédié au monde de la forêt du littoral, il a été conçu par l'Office national des forêts en concertation avec la communauté de communes Océan Marais de Mont. Il est adapté pour les personnes à mobilité réduite ainsi que pour celles atteintes de déficiences visuelles ou auditives. Ce parcours qui a déjà reçu un accueil favorable des associations de personnes porteuses de handicap. Autre initiative, mais à Laval cette fois-ci, où des médecins retraités ont repris du service cette semaine. Pour pallier au manque de médecins généralistes, près de 10 000 patients n'ont plus de médecins traitants. Un cabinet médical d'un nouveau genre a ouvert cette semaine dans la préfecture de la Mayenne. Ce sont à la fois deux retraités, mais aussi deux jeunes internes en médecine qui accueillent les patients sans médecin. Ce n'est pas une solution contre les déserts médicaux, mais ça apporte une petite réponse transitoire à ce problème de fond en Mayenne. Nous arrivons à la fin de notre magazine régional. La direction, tout de suite, le Maine-et-Loire.
L'Hebdo Région, si on sortait.
Et nous retrouvons Bastien Lallier de RCF Anjou. Bonjour Bastien. Et
bonjour Foulque, bonjour à tous.
Ce lundi, le rideau s'est ouvert sur le Festival d'Anjou, le deuxième plus grand festival de théâtre en France après Avignon. Au total, une trentaine de pièces de théâtre vont se succéder durant le mois de juin, Bastien.
Oui, et la première pièce a été présentée mardi soir au château du Plessis-Massé, près d'Angers. Faisons un rêve, c'est son titre, a été écrit par Sacha Guitry. C'est la création du festival. Florent Godard a rencontré son metteur en scène Nicolas Briançon, qui est aussi le directeur artistique du Festival d'Anjou.
Le décor est posé. Les acteurs Éric Logérias, Marie-Julie Baupe et Michel Dussara répètent une dernière fois leur texte et la pièce intitulée « Faisons un rêve » s'apprête à débuter. Une pièce datant de 1916 mais qui reste intemporelle, nous explique son metteur en scène Nicolas Briançon.
Le pitch, c'est très simple, c'est le mari, la femme, l'amant, dans une déclinaison tout à fait originale. On est dans la légèreté, on n'est pas dans la grande pièce philosophique, on n'est pas dans Shakespeare, hein. Mais je trouve que c'est un exercice de style absolument jubilatoire. Oui, la pièce, elle fonctionne aujourd'hui parce que les rapports entre hommes et femmes, quelles que soient les époques qu'on traverse, restent tout à fait immuables. Quel que soit le temps, les technologies, etc. Donc oui, la pièce, elle fonctionne. Ce qui m'importe, c'est pas tant ce qui est moderne que ce qui parle aux gens au travers du temps. Et les grandes pièces de théâtre, c'est leur cas.
Ouvrir le Festival d'Anjou sur une pièce de Sacha Guitry est aussi un moyen de rendre hommage à feu Jean-Claude Brialy. Jean-Claude Brialy qui fut longtemps le directeur artistique du festival, Nicolas Briançon.
On a voulu rendre hommage cette année pour les 10 ans de la mort de Jean-Claude, qui était un des grands directeurs du Festival d'Anjou. J'ai cherché des auteurs, d'abord qu'il avait pu interpréter, puis qui étaient ses auteurs fétiches. Et Guitry, évidemment, était son auteur fétiche, il l'a joué très souvent. De nombreuses pièces, puis même beaucoup d'extraits, par exemple, dans des émissions télé, il a joué très souvent du Guitry. Je trouvais que c'était bien, effectivement, d'ouvrir le festival en faisant ce clin d'œil et en lui rendant cet hommage.
Cette adaptation de la pièce « Faisons un rêve » de Sacha Guitry est proposée pour la première fois au public lors du Festival d'Anjou, avec au total 5 représentations. La troupe partira ensuite à Paris, où la pièce sera jouée au Théâtre de la Madeleine. Proposer des créations en avant-première, c'est aussi et surtout ça, l'originalité du festival.
Et cette pièce « Faisons un rêve » est encore au programme. Après le Plessis-Massé, elle sera jouée à Cholet et à Saumur la semaine prochaine. Au menu également de ce festival, de nombreuses têtes d'affiche, de Joe Estar à Bruno Salomon, en passant par Édouard Baird ou Michel Drucker, mais pas seulement, Nicolas Briançon.
D'abord, je dirais que les têtes d'affiche principales sont les auteurs aussi, car ce sont eux qu'on joue et ce sont eux qu'on vient entendre. Je pense à Molière, bien sûr, avec Amphitryon, je pense à Bernanos avec le dialogue des Carmélites, mais je pense aussi à Woody Allen avec Marie et Femme. Le merveilleux, l'extraordinaire, notre prix Nobel Patrick Modiano qui sera joué par Édouard Baird, et puis tous ces auteurs aussi que va lire Joe Estar, Victor Hugo en tête, Simone Veil et beaucoup d'autres.
Édouard Baird, Joe Estar, vous offrez des têtes d'affiche pour essayer d'attirer le grand public dans ce festival ?
Écoutez, d'abord, la tradition du Festival d'Anjou, ça a été très longtemps la tête d'affiche, justement. Quand j'ai repris ce festival il y a longtemps déjà. C'était Jean-Claude Brialy qui le dirigeait, auquel on rend hommage d'ailleurs cette année. Et c'était un festival qui était uniquement fait de têtes d'affiche. Et puis on a diversifié ça, nous, au fur et à mesure des années, au fur et à mesure que le festival prenait aussi de l'importance et s'agrandissait. On l'a ouvert aux compagnies. Je pense au concours des jeunes compagnies qu'on organise au centre même du festival maintenant et qui rencontre chaque fois un très grand succès. Je pense à des distributions qui sont pas forcément des distributions de vedettes, mais qui créent des spectacles qui remportent un succès fou. Je pense par exemple au Marie et Femme de Woody Allen. Si je demande au grand public s'ils savent qui est Astrid Ross, Hélène Médig ou Marc Fayet, ils vont peut-être pas me répondre, mais pourtant le spectacle est plein. Donc ça veut dire que les gens viennent entendre pas seulement des vedettes, mais ils viennent entendre aussi des textes, ils viennent se divertir évidemment au théâtre, et ils viennent entendre des auteurs, et j'espère qu'ils viendront écouter notamment aussi Molière et Bernanos, puisque vous évoquez une programmation qui est effectivement très diverse, mais je tiens aussi à ce devoir que nous avons de faire entendre les très grands auteurs, qu'ils soient d'ailleurs contemporains comme Bernanos, enfin contemporains du XXe siècle en tout cas, ou plus anciens comme Molière. C'est notre travail de faire entendre l'excellence.
Et le Festival d'Anjou, c'est jusqu'au 1er juillet. Tout le programme est à retrouver sur le site internet de l'événement.
Et notez que cet événement attire chaque année près de 25 000 spectateurs. Merci beaucoup Bastien, à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine, Voulk.
Dans le domaine de la culture, les arts florissants de William Christie, chef d'orchestre international et pape, comme il est surnommé, de la musique baroque, lance un projet de quartier des artistes à Tiré, en Vendée. L'idée étant de réaliser un campus international des arts florissants. William Christie s'est donné pour rôle de rassembler les jeunes artistes dans ce village vendéen afin de les former. Le quartier des artistes, labellisé Centre culturel de rencontre par le ministère de la Culture en 2017, a vocation à devenir un centre artistique et culturel international. Le projet est soutenu par la Fondation du patrimoine, qui cherche à rassembler 433 000 euros pour le financer. Le Puy du Fou célèbre ce vendredi le 40e anniversaire de la Cinécennie en présence de milliers d'invités. La Patrouille de France survolera le site pour une exhibition. Elle participera d'ailleurs samedi au Vendée Air Show, meeting aérien du côté des Sables d'Olonne. Et puis du sport avec les supporters du SCO d'Angers qui se souviennent bien de lui. Le milieu de terrain Jonas Pessali, 26 ans, est décédé dans la nuit de dimanche à lundi dans un accident de voiture chez lui au Brésil. Il avait porté le maillot blanc et noir de l'équipe de football du Maine-et-Loire durant 4 saisons entre 2012 et 2016. Il était marié et père de 3 enfants. Et il est l'heure maintenant de se quitter. C'est la fin de cette hebdo région des Pays de la Loire qui vous était présentée par la rédaction de RCF Vendée avec l'aide des rédactions de vos radios chrétiennes des Pays de la Loire. Merci de votre fidélité et on se retrouve la semaine prochaine.